Chapitre 12. C'est le début du mois de mai. Un mai de pluie et de bourrasque. Le scénario de la fabrique intérieure avance bien. Je l'écris le matin. Est-il besoin de dire que le voyage à Venise n'a pas eu l'effet escompté? Je quitte Elena peu avant qu'elle ne se réveille. Je lui presse une orange, fais couler le café, glisse deux toasts dans le grille-pain, dispose sur la table les céréales, les fruits, le jambon. Je dessine un cœur sur une feuille, ou des lèvres, ou ma pauvre silhouette, mon visage aux yeux tombants, une caricature malhabile sur le crâne de laquelle je pose trois uniques cheveux et dont je strie le front de rides parallèles. Je force le trait, je me vieillis outrageusement. Je me fais du mal. Je sors sans bruit, je passe la frontière, je vais d'un côté de l'immeuble à l'autre, d'une vie à une autre. Aucun douanier ne me contrôle. Qu'aurais-je à déclarer si c'était le cas? J'arrive chez moi. La première chose que je fais est de regarder chez elle, de regarder d'où je viens, ce qui est singulier. J'ai quitté le roman que je me suis construit jadis quand je ne connaissais pas Elena. Je me suis défait de ma peau de personnage que je revais chaque fois que je passe la cour et sa porte. J'ai enfilé de nouveau mes vêtements réels. Elle dort encore, je la vois dans le lit, un coude replié sous son visage, ses longs cheveux épars sur le drap. Me revient, avec une brutalité sensuelle, le parfum de sa nuque, le parfum de la nuit, si proche, tout à côté, là-bas. J'ai du mal à croire, en voyant Elena d'où je suis, assis à ma table de couturier, que quelques instants plus tôt, je me trouvais encore à côté d'elle, dans sa chaleur, dans sa vie. La fabrique intérieure se passe dans un futur proche. Les progrès de la robotisation, ceux de la recherche en intelligence artificielle associés à ceux du développement de peaux synthétiques, qui au départ avaient été mis au point pour le traitement des grands brûlés, ont permis d'inventer des créatures d'un aspect rigoureusement humain, appelées Echo par l'entreprise d'État qui les produit. Ce sont des sortes de poupées des deux sexes que tout un chacun peut acquérir pour une somme importante, mais pas extrême, disons l'équivalent de 2 années d'un salaire moyen. Libre à lui ensuite de les programmer, c'est-à-dire de conformer leur mémoire, de la remplir, de la modeler. Leur utilisation à des fins sexuelles, même si elle a été une motivation d'achat dans un premier temps pour quelques clients, reste totalement marginale. Ce qui fascine les acheteurs, c'est de pouvoir structurer Echo comme bon leur semble, d'emplir sa mémoire avec les souvenirs qu'ils choisissent, de lui inventer un passé, une enfance, une façon de prononcer la langue, de se mouvoir, de sourire, de pleurer, de dormir. Les possibilités de programmation sont infinies. Et lorsque l'opération est terminée, les combinaisons entre les données ouvrent un champ de réaction d'une complexité qui peut souvent dépasser ce qu'un simple être humain expérimente au cours d'une vie réelle. À l'image des ordinateurs que nous utilisons et qui pourtant, conçus par un cerveau humain, effectuent des opérations beaucoup plus rapidement que l'intelligence humaine ne le peut et d'une difficulté qu'elle ne parviendrait pas à générer ni à résoudre. Je fais part de mon travail à Florence. Nous buvons un café à la terrasse d'une brasserie du boulevard Voltaire. L'air est doux et humide. Elle fume une cigarette que je lui prends de temps à autre pour aspirer une bouffée. Elle m'écoute avec attention. Elle porte un tailleur pantalon. C'est la première fois que je la vois ainsi. Je songe que si nous étions encore ensemble, elle n'aurait jamais pensé à acheter une pareille tenue. Et tous ceux qui choisissent d'acquérir ces sortes de mannequins les demandent jeunes et beaux, je présume? Non, justement. Paul, mon personnage principal, heurte l'administration par une demande originale, celle d'un éco-vieillard dans lequel il a l'intention d'implanter toute la mémoire et les connaissances du monde. Une sorte de bibliothèque universelle, exhaustive, un Internet incarné, sous des traits humains et individualisés. Dieu ? Ce pourrait être un de ses noms, pourquoi pas ? Et ta créature, elle a une durée d'existence limitée ? Pas vraiment. En tout cas, son espérance de vie n'a rien de commun avec la nôtre. On l'estime entre 2 et 3 millénaires, autant dire l'éternité. L'énergie qui la meut est renouvelable. Sa peau synthétique intègre de multiples panneaux solaires miniaturisés. La seule chose qui puisse la mettre hors circuit est de la maintenir dans le noir pendant quelques semaines. Mais cela, de toute façon, est sans dommage pour les données qui lui auront été intégrées et qui demeurent quoi qu'il arrive. Il suffit de l'exposer de nouveau à la lumière et elle reprend vie, si je puis dire. Mes derniers mots la font sourire. Elle reste songeuse et se tourne un peu vers la rue. Il s'est remis à pleuvoir. On voit la pluie rouler sur les jeunes feuilles des arbres. C'est très beau, comme des larmes de géants qui tomberaient sur le monde. Un silence s'installe que ni elle ni moi ne tentons de chasser. Nous savons que nous pouvons rester ainsi sans nous parler. Je connaissais cela avec Eugène aussi. Et cela commence avec Elena. Le silence semble parfois le profond dialogue de ceux qui se comprennent. Les nuages, bas, passent comme des figurants lointains, échappés d'une faible profondeur de champ, et qui paraissent juste esquissés, peu réels. Mes yeux se posent de nouveau sur Florence. J'aimerais savoir à quoi elle pense à ce moment. Je lui prends une dernière fois sa cigarette. J'aspire une longue bouffée, voluptueusement. Elle me laisse faire, me regarde et sourit, un peu tristement. C'est la dernière chose que nous pouvons encore partager.
Quoi ?
Ça, me dit-elle, ce que tu écrases si bien, là, dans le cendrier ?